BW. Droits et libertés.
Cette semaine, la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant célèbre ses 30 ans. Elle a été adoptée le 20 novembre 1989. Les dirigeants du monde entier s'y engagent pour la toute première fois vis-à-vis de tous les enfants, sans distinction, à leur garantir et protéger les droits des mineurs. La Convention relative aux droits de l'enfant a valeur d'accord international et elle est même devenue le traité international sur les droits de l'homme le plus ratifié au monde. On en parle avec Ndiaye et Fatou Bintouba de la cellule d'appui à la protection de l'enfance au Sénégal. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant fixe des droits individuels et collectifs aux enfants, comme celui à l'intégrité physique, le droit à la liberté d'expression. Les États signataires y prennent aussi des engagements, comme celui de favoriser le développement par l'accès à l'éducation ou aux soins de santé pour tous les enfants. Alors, ce traité a permis d'améliorer les conditions de vie de nombreux enfants. En 30 ans, par exemple, les décès en bas âge ont chuté de plus de 50%. La sous-alimentation aussi a été presque divisée par deux. Alors bien sûr, il reste beaucoup à faire encore pour que les droits exprimés dans la Convention deviennent une réalité pour tous. Et pour parler de ces droits de l'enfant, nous avons choisi de nous entretenir avec Ndiaye Fatou Bintouba. Elle est chargée de programme au sein de la cellule d'appui à la protection de l'enfance, une structure gouvernementale au Sénégal. Bonjour Ndiaye Fatou Bintouba.
Bonjour Sandrine.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots pour commencer de vos activités au sein de la cellule d'appui à la protection de l'enfance au Sénégal ?
Comme vous l'avez dit, donc je suis chargée de programme et community manager à la cellule d'appui à la protection de l'enfance depuis 8 années déjà. C'est une cellule qui se trouve au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. C'est une cellule qui s'occupe principalement du plaidoyer autour des questions de promotion des droits de l'enfant, de promotion du respect des droits de l'enfant et de tout ce qui concerne les politiques nationales autour d'une meilleure protection de l'enfant de manière générale. Dans les droits de l'homme, on retrouve les droits de l'enfant. Seulement, les droits de l'enfant, c'est une question spécifique à une catégorie spécifique d'êtres humains de 0 à 18 ans qui ont des besoins aussi qui doivent être pris en compte séparément. Ce ne sont pas les mêmes besoins que les adultes. Et les enfants ont besoin d'être protégés davantage et ont besoin qu'on les mette dans les conditions de bien grandir afin d'être des adultes qui pourront aussi être bénéfiques à leur société et à leur environnement.
Quels sont les mécanismes à la fois juridiques, étatiques, mais aussi peut-être au sein des communautés qui existent pour régler les problèmes qui peuvent survenir ?
Le Sénégal est très avancé et je dirais relativement dynamique parce qu'il y a des actions qui sont menées aussi bien au niveau étatique qu'au niveau de la société civile et au niveau des communautés. Aujourd'hui, je vais commencer par le dernier groupe. Les communautés ont pris en charge le combat pour les droits de l'enfant et ont décidé de s'engager pour que les droits des enfants soient davantage respectés. Beaucoup d'initiatives sont organisées en termes de plaidoyer, en termes de sensibilisation, des marches pacifiques sont organisées. Les communautés essayent d'organiser des activités avec les enfants pour que leur voix soit portée au niveau le plus loin. La société civile fait ce travail-là depuis plusieurs années, mais la différence, c'est que ces dernières années, elle travaille énormément avec l'État pour ensemble élaborer des politiques en faveur de l'enfant et des politiques qui respectent les cultures locales qui sont positives en faveur de l'enfant et pour que la législation ne soit pas décalée par rapport aux réalités de notre société. Enfin, l'État du Sénégal, qui fait partie des premiers pays à avoir ratifié la Convention des droits de l'enfant, œuvre énormément à ce que la législation puisse évoluer. Plusieurs projets sont actuellement en cours, comme par exemple le projet de loi relatif au Code de l'enfant, qui est une très forte demande et une très forte attente aussi bien des enfants eux-mêmes que de la société civile. On a un projet de loi aussi portant sur le statut des écoles coraniques au Sénégal pour une meilleure réglementation et pour un appui de l'État auprès de ces écoles qui sont spécifiques.
Il y a un exemple qui s'impose à mon esprit là tout de suite, c'est l'excision, par exemple, des petites filles, qui est assez développée dans de nombreuses régions du Sénégal traditionnellement. Or, elle est interdite par la loi. Alors, il y a toujours ces difficultés pour imposer une loi qui a été prise en faveur des droits des enfants, mais qui est, comme vous le disiez, en décalage avec des traditions, peut-être, avec aussi une économie locale, parce qu'après, il faut aussi songer à la reconversion des exciseuses, leur retrouver une autre place dans la société un peu équivalente.
En réalité, pendant plusieurs années, on s'était contenté de vouloir appliquer la loi systématiquement. Une loi qui, au départ, est venue de l'international pour être appliquée au niveau national. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait une forte résistance des communautés, on a voulu les amener elles-mêmes à comprendre que c'était une pratique traditionnelle, certes, culturelle, certes, mais néfaste pour les enfants. Et qu'au niveau de la santé des jeunes filles, il y avait énormément de conséquences néfastes pour les jeunes filles à l'adolescence, à l'âge adulte et même une forte mortalité des enfants de sexe féminin suite à des mutilations génitales féminines. Les mentalités ont besoin de temps pour évoluer, mais je sais qu'en quelques années, il y a eu énormément de retours positifs sur l'abandon de l'excision par certaines communautés. D'autres mettent un peu plus de temps à passer à l'échelle et il faut continuer à échanger, à discuter, à faire intervenir d'anciennes exciseuses pour justement montrer que ce n'est pas un combat occidental, c'est un combat interne que nous voulons mener pour le bien de nos jeunes filles. Et ça, ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça demande effectivement le passage de certaines générations.
Et puis, il y a énormément d'acteurs dans ce domaine aussi, qui, de la lutte ou la défense des droits des enfants. Il y a plein de personnes, d'adultes qui interfèrent. Il y a des enseignants, il y a la famille, il y a des dignitaires religieux, peut-être des chefs de village, au-delà de l'État, de la police. Comment est-ce que vous arrivez à articuler le dialogue ou le travail entre toutes ces instances-là?
Il y a une multiplicité d'acteurs qui travaillent autour de l'enfant de manière générale. Ça, c'est une particularité au Sénégal et peut-être dans certains pays, mais pour le cas du Sénégal, il y a énormément d'acteurs qui sont mobilisés autour de l'enfant. Ça a du bon comme ça a du moins bon. Mais nous, surtout en tant que cellule d'appui à la protection de l'enfance, ce que nous essayons de faire, et qui fait partie d'ailleurs de nos missions premières, c'est de faciliter la synergie des interventions en faveur des enfants, de faciliter la communication entre les organisations pour ensemble attaquer les problèmes qui concernent les enfants. Et au niveau décentralisé, nous avons aussi une subdivision qui permet de toucher les communautés, de toucher les acteurs au niveau local sans que l'information soit dispersée et aille dans tous les sens. Il y a ce qu'on appelle au Sénégal, dans les 45 départements, ce qu'on appelle un comité départemental de protection de l'enfant. Et chacun de ces comités regroupe l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du bien-être de l'enfant. Ces comités sont subdivisés également en comités parfois de quartier, parfois de village, parfois de communes d'arrondissement, etc., etc. Et tout ceci permet que l'information puisse circuler le mieux possible et que les acteurs puissent se retrouver de temps en temps autour d'une table pour parler d'un sujet sur lequel ils travaillent ensemble.
Alors, j'avais regardé une carte du Sénégal, je crois qu'elle avait été faite par Plan International en 2011, pour montrer le nombre d'adultes impliqués dans l'enfance, la protection de l'enfance, région par région. Et on voyait que dans les grandes villes comme Saint-Louis, comme Dakar ou même Ziguinchor, il y avait beaucoup plus d'adultes par enfant que dans des régions plus éloignées comme Tambacounda ou Kolda même, Kédougou. Comment faire pour répondre aussi à ces inégalités spatiales dans des régions plus rurales, plus reculées?
Heureusement, il s'est passé beaucoup de temps et de choses entre 2011 et 2019. Et si aujourd'hui on avait une carte plus à jour de la présence des acteurs au niveau national, je pense qu'on verrait vraiment que beaucoup d'interventions commencent à être délocalisées, surtout dans le sud et dans l'est du Sénégal. Dans le sud, dans les régions de Kolda, dans les régions de Sédhiou, de Kédougou, qui sont assez difficiles d'accès, hein, d'un point de vue infrastructure routière, On a maintenant de plus en plus d'acteurs qui vont jusqu'à ces zones reculées pour être à proximité des enfants et pouvoir leur offrir un certain paquet de services. D'ailleurs, dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Convention, la cellule d'appui à la protection de l'enfance travaille avec des partenaires qui aujourd'hui sont délocalisés dans ces régions. Et grâce à cette délocalisation, la CAP a pu accéder aux enfants pour recueillir leurs avis, leurs impressions, leurs préoccupations et pouvoir leur montrer que nous voulons aussi savoir ce qu'elles pensent, même si elles sont à 600 ou 800 kilomètres de la capitale Dakar.
Et selon vous, justement, qu'est-ce qui a changé dans ces préoccupations des enfants depuis votre enfance à vous?
Même s'il reste encore du chemin à faire, on écoute davantage les enfants aujourd'hui qu'à l'époque où moi j'avais leur âge. Il était impensable à l'époque où j'étais au lycée, où je devais avoir entre 10 et 15 ans, il était impensable qu'on me demande mon avis sur mon bien-être ou sur le respect ou la mise en œuvre de mes droits. Il y a eu énormément d'évolution de ce côté-là. Je pense que l'explosion des nouvelles technologies a aussi permis aux enfants de s'ouvrir au monde, même si certains dangers sont quand même à noter par rapport à leur utilisation des technologies. Mais l'enfant accède à une information internationale qui lui permet de voir que, au-delà des seules frontières de son pays, les enfants sont traités de telle ou telle manière. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants sont plus motivés à prendre la parole pour défendre leurs droits, évidemment dans le respect des valeurs culturelles sénégalaises, parce qu'on ne prend pas la parole n'importe comment dans notre société sénégalaise, surtout quand ça concerne les enfants qui doivent s'adresser aux adultes. Mais je pense qu'il y a plus de plateformes aujourd'hui pour permettre aux enfants de s'exprimer et de parler aux adultes à cœur ouvert sur leurs attentes concernant la réalisation de leurs droits.
Ndiaye Fatou Bintouba, un grand merci.
Merci beaucoup Sandrine. Très bonne fin de journée, au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Ndiaye Fatou Bintouba, encore une fois, de la cellule d'appui à la protection de l'enfance au Sénégal. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. Je vous renvoie également à notre portfolio consacré à la Convention des droits de l'enfant sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ne lâchez rien.